Un deuxième conseiller militaire iranien tué en Syrie, le corps des gardiens promet de riposter à Israël. Le Yémen empêche l'entrée de produits en provenance de pays européens qui profanent le noble Coran. Les manifestations anti-Netanyahou se poursuivent en Palestine occupée. Et en France, et dans le contexte de la réforme des retraites, la justice suspend une interdiction de rassemblement nocturne à Paris. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le détail. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a lancé dimanche un avertissement à Tel Aviv, promettant de riposter la mort en martyr de deux de ses conseillers militaires en Syrie lors d'une frappe aérienne israélienne contre Damas. Plus tôt dans la journée, la radio-télévision iranienne IRIB a rapporté qu'un conseiller militaire du CGRI est décédé des suites de ses blessures après une frappe aérienne israélienne vendredi près de la capitale Damas, devenant la deuxième victime de l'agression israélienne. Suite au décès du deuxième conseiller identifié comme étant M. Mehrdad Mehrani, le CGRI a publié un communiqué dans lequel il a réaffirmé que le régime factionniste recevrait indubitablement la réponse de ce crime odieux. La frappe sur la banlieue de Damas, la sixième contre la région syrienne depuis début mars, avait tué Milad Heydari, conseiller du CGRI, ce dernier ayant émis un avertissement similaire après avoir confirmé la mort en martyr de M. Heydari. Selon l'agence de presse syrienne Sana, des avions de chasse israéliens ont touché le territoire syrien depuis le nord du plateau du Golan, occupé très tôt vendredi matin, et ils ont ciblé une installation dans la banlieue de Damas. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a lui aussi fermement condamné les attaques israéliennes à l'aube de jeudi et vendredi sur certains points de Damas et de ses environs. Le Conseil politique suprême yéménite a demandé aux autorités de Sanaa d'empêcher l'entrée de marchandises produites à partir de pays où le Saint-Coran a été profané. Samedi 1er avril, le Yémen a interdit l'entrée des marchandises produites par des pays européens qui ont permis la profanation du Saint-Coran dans le cadre de ce que le chef du mouvement de résistance Ansarallah a qualifié de sanctions économiques. L'agence de presse yéménite Sabah a rapporté que le conseil politique dirigé par Mahdi al-Mashat a condamné lors d'une réunion du samedi 1er avril les profanations répétées du noble Coran, dont le dernier en date était le Tadhafé du Livre Saint au Danemark. Le conseil a ordonné au gouvernement de salut national d'empêcher l'entrée de produits en provenance de pays qui avaient permis de profaner le Saint-Coran et d'eau. Préparer un mécanisme de mise en œuvre, a-t-on appris de la même source. Sur le même volet, le leader d'Ansarallah, Seyed Abdul Malik Badr al-Houssi, a fermement condamné vendredi le tadhafé du Saint-Coran en Europe, avant de souligner la nécessité pour les musulmans de prendre une position dans la guerre menée contre l'islam. L'actualité aussi, la Cisjordanie. Les forces israéliennes ont tué un jeune Palestinien dans la partie sud de la Cisjordanie occupée, disant qu'il avait mené samedi soir une attaque à la voiture bélier contre les troupes du régime à un poste de contrôle en Cisjordanie. Mohamed Raed Baradia, 24 ans, a été tué samedi par les forces du régime israélien près de la ville de Beit Oumar, au nord de la ville d'Al-Khalil, en Cisjordanie, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, citant le ministère palestinien de la Santé. Selon le rapport, les autorités israéliennes ont déclaré que le jeune homme a percuté avec sa voiture les soldats du régime stationnés à un poste de contrôle près de la ville de Beit Oumar, blessant trois d'entre eux, dont deux se trouvent dans un état critique. Le ministère a déclaré que des soldats israéliens avaient ouvert le feu sur le jeune Palestinien alors qu'il conduisait son véhicule, le blessant grièvement. Il a ensuite succombé à ses blessures. Après la fusillade, les forces israéliennes ont laissé Baradia saigner jusqu'à ce qu'il meure des suites de ses blessures, tout en empêchant le personnel médical d'accéder au lieu. Le Hamas et le djihad islamique ont par la suite salué l'attaque d'Al-Khalil contre les forces israéliennes. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à travers les territoires occupés pour la 13e semaine consécutive afin de protester contre un ensemble de réformes judiciaires controversées proposées par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Plus de 150 000 personnes ont envahi la ville côtière de Tel Aviv lors de la manifestation de samedi 1er avril, ont indiqué les médias israéliens, tandis que de plus petits rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes. Des manifestations ont éclaté en janvier après que la coalition au pouvoir a annoncé son train de réformes qui, selon le régime, est nécessaire pour rééquilibrer les pouvoirs entre les législateurs et le pouvoir judiciaire. Les réformes proposées réduiraient l'autorité de la Cour suprême et donneraient aux politiciens de plus grands pouvoirs sur la sélection des juges. Les opposants de Netanyahou voient la volonté de son cabinet d'adopter la législation sur les soi-disant réformes comme une menace pour l'indépendance de la Cour suprême, la décrivant comme un coup d'État judiciaire. Ils accusent Netanyahou d'essayer d'exploiter les réformes pour annuler d'éventuels procès contre lui, faisant face à trois affaires de corruption. Netanyahou a retardé lundi 27 mars son plan de mise en œuvre de changements au sein du système judiciaire sous la pression de la rue et les voix politiques dissidents aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Israël. Nous ne croyons rien de ce qui sort de la bouche de Bibi. Nous pensons que c'est juste un coup politique pouvant arrêter la manifestation, a pourtant déclaré un manifestant à propos de la soi-disant suspension. Destination France, où la justice vient de suspendre une interdiction de rassemblement nocturne à Paris, la capitale. L'arrêté du préfet de police interdisait de manifester entre le 1er avril à 17h et le 2e avril à 3h du matin dans plusieurs secteurs de la capitale proches des lieux de pouvoir ou théâtres de récents heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le tribunal administratif de Paris a annulé le 1er avril un arrêté du préfet de police qui interdisait des rassemblements, jugeant qu'ils portaient atteinte à la liberté de manifester, selon l'ordonnance du juge des référés consulté par l'AFP. L'arrêté du préfet de police interdisait également aux abords et au sein des manifestations le port d'engins pyrotechniques, de substances dangereuses ou d'équipements de protection destinés à mettre en échec le maintien de l'ordre. Le tribunal administratif a jugé ces deux interdictions disproportionnées, soulignant que plusieurs manifestations déclarées le 1er avril à Paris se sont déroulées sans heurts. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. La révolution colorée orchestrée par les États-Unis revient en Géorgie, analyse du journaliste d'investigation Kit Klarenberg. Au cours de la deuxième semaine de mars, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, pour protester contre un projet de loi qui obligeait les ONG et les organisations médiatiques du pays à divulguer leur financement étranger si celui-ci représentait plus de 20% de leurs revenus annuels. Bien que le gouvernement ait finalement cédé à la pression et abandonné la législation, il y a peu de raisons de douter qu'une révolution de couleurs orchestrée par les États-Unis, que le projet de loi visait précisément à empêcher, puisse se produire à nouveau dans un avenir très proche. Après tout, la Géorgie a été un terrain d'essai précoce pour cette forme insidieuse de changement de régime occidental, un modèle qui s'est avéré un tel succès qu'il a ensuite été exporté à travers le monde à plusieurs reprises au cours des premières décennies du 21e siècle. La révolution des roses de 2003 en Géorgie a été le deuxième coup d'État occidental dans l'ancienne Union soviétique ou dans ses environs après le changement de millénaire. Après la Serbie en 2000, Tbilissi a été suivi par l'Ukraine l'année suivante et le Kirghizistan en 2005. Aujourd'hui, ces bouleversements sont présentés dans les médias mainstream comme des luttes légitimes du pouvoir de peuple contre la tyrannie. Pourtant, à l'époque, les médias occidentaux étaient remarquablement francs sur le rôle central joué par le National Endowment for Democracy, NED, une agence américaine qui fait ouvertement ce que la CIA a fait autrefois secrètement, et l'investisseur milliardaire George Soros dans le renversement de ses gouvernements. En 1991, le Washington Post a rapporté comment la NED Soros avait contribué à inaugurer une ère de coup d'État sans espionnage menée via des opérations manifestes. L'organisation a financé des ONG anti-gouvernementales, des groupes de droits de l'homme, des collectifs d'activistes politiques, des médias, des syndicats et même des établissements d'enseignement pour détruire le communisme dans l'ancien pacte de Varsovie et l'URSS. Les récits modernes de la Révolution des Roses témoignent généralement de ce qu'elle était de nature explicitement anti-russe. Pourtant, l'ancien président de la Géorgie, Édouard Chevardnadze, était agressivement pro-occidental et les relations entre son gouvernement et Moscou étaient médiocres tout au long de sa présidence de 8 ans. De toute évidence, Chevardnadze n'était pas suffisamment pro-occidental ou anti-russe pour Soros ou la NED, et on estimait que Saakashvili servirait les intérêts de Washington plus efficacement et de manière plus servile. Cela souligne le danger que représentent les opérations manifestes, même pour les gouvernements obéissants. En cas de coup d'État réussi, le financement parallèle des ONG d'opposition et des médias se poursuit, garantissant que des troubles peuvent être déclenchés à tout moment si une administration soutenue par l'Occident n'ose pas agir comme il se doit. C'est précisément ce qu'on a vu récemment dans les rues de Tbilissi. Un examen de 2022 du financement de la NED en Géorgie montre que celle-ci continue de soutenir les programmes dits pro-démocratie là-bas, coûtant des millions de dollars. De nombreuses organisations bénéficiaires, telles que le Shame Movement, ont été à l'avant-garde des récentes manifestations.